Je vais poursuivre ce soir et surtout approfondir la question qu'on avait commencée à la séance précédente, donc cette question de l'opposition entre la nature et la loi. Opposition qui est peut-être un fait trop connu et dit de manière trop générale. Hein, on attribue souvent en général aux sophistes l'opposition entre ce qui est naturel et ce qui est légal, ce qui est donc institué par les sociétés humaines. Et donc on va réfléchir à quelque chose de beaucoup plus diversifié, en fait des opinions très diversifiées sur cette relation entre ce qui est naturel et ce qui est culturel, et en particulier sur ce dont on devra bien reconnaître que c'est une ébauche d'un droit naturel, ou du moins d'un droit fondé sur la nature. Donc on pourrait formuler de la manière suivante, c'est-à-dire que ce à quoi nous pousse la nature peut servir de fondement ou de légitimation pour les lois qu'on institue. Donc ça, on va le voir alors en reprenant d'abord les quelques auteurs dont on avait déjà un petit peu évoqué l'œuvre à la séance précédente, et puis en étudiant d'autres. Et le premier, celui qu'on avait vu, c'est Antiphon, qui est d'ailleurs le seul pour lequel on ait, si vous vous souvenez, un fragment littéral sous la forme d'un papyrus, et donc dont on peut connaître très précisément les termes, la manière de s'exprimer, donc la manière dont il a formulé sa proposition. Pour tous les autres, on devra recourir à Platon. Alors Platon, pourquoi Platon ? Parce que c'est celui dont on a toute l'œuvre, c'est le seul auteur de cette époque dont on a absolument toute l'œuvre, c'est même pas le cas pour Aristote, et c'est une œuvre abondante, et dans cette œuvre, il met en scène l'ensemble de ces personnages historiques ou peut-être pas tout à fait historiques, c'est-à-dire peut-être qu'il y a des personnages qui sont fictifs, mais qui néanmoins représentent une voix dans ce débat qui se poursuivait, donc on est vers la fin du 5e siècle. Et alors Platon, bien sûr, c'est une source qui écrit de manière personnelle, selon ses propres intérêts, et qui, comme on le sait, n'appréciait pas énormément les sophistes. Mais peut-être qu'on exagère justement cette dépréciation, parce que vous allez voir que quand il propose plusieurs conceptions sophistiques différentes, il y met toute la nuance et la subtilité qu'elles méritent. Donc on va voir que même dans cette source dont il faut un tout petit peu se méfier, c'est-à-dire il faut un tout petit peu voir ce qui est du Platon et ce qui a des chances d'être la source originelle, eh bien, même avec cette toute petite dose de méfiance, en fait, on verra qu'il y a vraiment... il n'y a pas une caricature de la sophistique chez Platon, pas du tout. Voilà. Donc j'essaie de vous montrer que non seulement il y a plusieurs relations entre la nature et la loi qui sont édictées par les sophistes, donc ce n'est pas un mouvement uniforme, et qu'en plus Platon est capable de faire sentir toutes ces nuances. Alors à propos d'Antiphon, donc on avait déjà vu que il parlait des nomima de la nature et de la loi. Donc les nomima, c'était les coutumes, les usages, ce qui est partagé par tout le monde. Et les nomima de la nature, on avait vu qu'il les considérait comme innés, universels. Je vais écrire en abréviation, faute de place. Alors que ceux de la loi, bon, on aura chaque fois exactement le contraire, ils sont conventionnels, donc on les acquiert par la transmission sociale, ils sont relatifs, c'est ce qui s'oppose à universel, relatifs à une certaine culture, ils changent d'une société à l'autre. Alors ceux de la nature, ils expriment une vérité, disait Antiphon, tandis que ceux de la loi n'expriment qu'une opinion. Et ça, on pourrait illustrer par des exemples, en se disant, par exemple, que un précepte de la nature, c'est, par exemple, ne pas se jeter dans un précipice. Et c'est une vérité, pourquoi ? Parce que son effet est immédiat, comme il le dit. Il y a un effet immédiat. Si vous le faites, la sanction, elle est immédiate, elle est nécessaire, elle est universelle, elle est inévitable. Alors que pour la loi, ce n'est pas du tout la même chose. Si une loi dit par exemple qu'il ne faut pas dérober, c'est une simple opinion parce qu'elle n'aura pas nécessairement un effet immédiat. Premièrement, tout le monde pourra le faire tout de même. Et secondement, peut-être que même on ne sera pas sanctionné si on n'est pas vu. Donc vous avez vu cette phrase très... cynique, pourrait-on dire, hein, si on n'est pas pris, eh bien, il n'y a pas de sanction de la loi. Donc l'effet ici est, disons, éventuel. Il y a un effet éventuel, mais pas nécessaire. Et ce qui était très important aussi, c'était que selon Antiphon, la nature ne nous pousse pas particulièrement à commettre des choses interdites par la loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une justification des interdits légaux par le fait que c'est ce que spontanément on ferait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de penser que spontanément, naturellement, on est porté à se nuire les uns aux autres. Il n'y a aucune raison de supposer ça. Et donc on a cette vision qui n'est pas pessimiste de la nature chez Antiphon, qui n'est pas optimiste non plus. Il ne dit pas qu'à l'inverse, on est poussé à faire plutôt ce qui est digne d'éloge, recommandé. Non, pas davantage, ni davantage l'un, ni davantage l'autre. La nature, à quoi elle nous pousse? Uniquement à une chose, c'est à ce qui est utile à notre survie. C'est tout. Et c'est pourquoi ces coutumes, ces usages, ce qui est inné en nous, c'est, autrement dit ces instincts de la nature nous poussent à nous sauvegarder. Hein, et c'est vraiment un instinct réflexe de ne pas mettre sa vie en danger. Donc voilà pour ce fragment d'Antiphon. Alors on avait vu aussi un double discours. J'associe étroitement les deux discours, celui de Thrasymaque et celui de Glaucon, dans le premier livre de la République de Platon. Je les associe parce que vraiment l'un complète l'autre et on sent bien que Platon, loin de dévaloriser celui qui est le plus excessif, celui de Thrasymaque, en donne plutôt par la bouche de Glaucon, qui n'oublions pas est son frère, hein, frère de Platon, donc en donne par la bouche de Glaucon plutôt une sorte de variante ou de complément plus conforme à l'opinion publique, mais qui en fin de compte dit la même chose. Et ça c'est un indice d'ailleurs déjà du fait que Platon ne dévalorise pas nécessairement les discours sophistiques. Alors, que disait Thrasymaque? Il disait que la justice, au sens de instituer, la justice des lois, c'est l'intérêt du plus fort. Hein? Donc, c'était une position par rapport à la loi, c'est l'intérêt du plus fort. Et ce plus fort, il était très clairement défini comme le plus fort politique, et non pas comme le plus fort naturel, hein, pas comme le plus costaud. C'était le plus fort politique, parce qu'il dit, dans n'importe quel régime, ceux qui font les lois, la classe ou le groupe qui fait les lois, les font toujours à leur propre avantage. Donc c'est bien un jugement politique qu'émet Thrasymaque. Et Glaucon le complète de quelle manière? Eh bien, d'abord Glaucon précise que ce qu'il va dire n'est pas nécessairement sa propre pensée, ou alors c'est seulement une partie de sa pensée, c'est ce qu'il déplore, c'est pas ce qu'il prône. Mais c'est en tout cas ce que disent la plupart des gens. C'est en tout cas l'opinion commune quand elle veut bien s'exprimer sincèrement. Et en premier lieu, donc, il affirme à peu près la même chose que ce qu'Antiphon avait fait remarquer, c'est que la loi n'a pas un effet contraignant, parce que bien souvent, on peut échapper à la loi, et donc l'injustice, bien souvent, n'est pas punie, et la justice n'est pas favorisée par la loi. Donc il y a cette faiblesse, hein, ce manque d'effectivité de la loi qui est confirmé par Glaucon. Alors ensuite, ce qui est par contre tout à fait opposé à Antiphon, c'est que Glaucon construit tout son discours sur le fait que naturellement les hommes sont portés à se nuire les uns aux autres. C'est ça qui justifie l'instauration des lois, c'est ça qui justifie ce qu'il appelle véritablement un contrat social. Donc on a dans la bouche de Glaucon l'idée d'un contrat social qui est rendu nécessaire par le fait que, par nature, les hommes se nuisent les uns aux autres, hein, donc on a une nuisance naturelle généralisée, et qui a alors établi le contrat social? Eh bien, il précise que ce sont ceux qui, par nature, ne sont pas assez forts pour toujours l'emporter ou pour toujours se défendre. Et donc, je vais vous lire cet extrait parce que c'est intéressant d'avoir les termes précis. Les termes de Platon. Donc ça commence par « on dit que ». Donc c'est bien « on dit », c'est-à-dire tout le monde. C'est l'opinion la plus générale. « On dit que, suivant la nature, commettre l'injustice est un bien, la subir un mal. » Donc « commettre l'injustice est un bien », bon, pas de manière absolue, mais je veux dire, dans la mesure où il y a une lutte, celui qui l'emporte, ben pour la nature, c'est celui qui a gagné, non? C'est un bien pour lui. Celui qui a le dessous, c'est un mal pour lui, puisqu'il va être blessé, tué. Donc selon la nature, il vaut mieux commettre l'injustice que la subir. Bon, alors il faut prendre injustice aussi dans un sens très large, hein. C'est injustice, coups et blessures, enfin n'importe quel dommage. Mais on dit donc qu'il y a plus de mal à la subir que de bien à la commettre. Hein, c'est pire de subir une injustice qu'il n'est bien de la commettre. Donc la nature, encore une fois, ici, hein, ne nous pousse pas nécessairement à passer notre temps à nous nuire les uns aux autres, mais dans le cas où il y a conflit, tous nous allons essayer de ne pas subir l'injustice. On va essayer d'avoir le dessus. Bon. Aussi, quand les hommes se font et subissent mutuellement des injustices et qu'ils en ressentent le plaisir ou le dommage, ceux qui ne peuvent éviter l'un et obtenir l'autre, donc les plus faibles, hein, ceux qui n'arrivent pas à éviter le dommage ou à obtenir le dessus dans une lutte, donc les plus faibles, jugent qu'il est utile de s'entendre les uns avec les autres pour ne plus commettre ni subir l'injustice. Voilà l'idée de contrat. On s'entend les uns les autres pour dire, bon, on fait la trêve, pacte de non-agression, personne n'attaque personne, et comme ça on est tous tranquilles. De là prennent naissance les lois et les conventions des hommes entre eux, et les prescriptions de la loi furent appelées légalité et justice. Donc ici, il y a une identification entre deux termes qui est assez fréquente, qu'on retrouve chez d'autres auteurs, par exemple Xénophon, entre ce qui est légal, donc qui correspond à la loi, et ce qui est juste. Finalement, souvent, quand on demande à quelqu'un dans la rue à Athènes qu'est-ce que c'est que le juste, il va dire ben, c'est ce que disent les lois. Voilà. Telle est l'origine et l'essence de la justice. Elle tient le milieu entre le plus grand bien, c'est-à-dire l'impunité dans l'injustice. Donc on ne dit pas que la justice est le plus grand bien dans le sens commun. On dit qu'elle est au milieu entre ce qui serait le plus grand bien, c'est-à-dire l'impunité dans l'injustice, et le plus grand mal, c'est-à-dire l'impuissance à se venger de l'injustice. Donc le fait d'être totalement une victime. Placée entre ces deux extrêmes, la justice n'est pas aimée comme un bien, mais honorée à cause de l'impuissance où l'on est de commettre l'injustice. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on respecte les lois? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est juste? Pourquoi est-ce qu'on s'efforce d'être dans la légalité? C'est pas du tout parce qu'on pense que c'est bien, que c'est vraiment quelque chose qu'on désire pour soi-même. C'est...
C'est exceptionnel, vraiment exceptionnel.
Il n'y a pas de problème, ça met un peu d'ambiance. mais c'est parce que... c'est par impuissance, c'est parce que... On ne peut pas faire autrement. On sait que si on n'avait pas cette obligation de suivre la loi, ça risquerait d'être pire pour nous. Hein. On affronterait un plus grand danger que, comme vous devez y penser certainement, ça ressemble très très fort aux théories du contrat social qu'on a émises à l'époque moderne, notamment celle de Hobbes, hein, donc qui pense que on se soumet à l'autorité de l'État pour éviter de sans cesse devoir lutter les uns contre les autres et devoir se méfier de tout le monde. Et donc on accepte ce monopole de la violence légitime, hein, qui est le monopole de l'État, pour justement avoir la tranquillité de ne pas devoir se méfier constamment de tout le monde. C'est exactement ça qui est exprimé ici par Glaucon. Et alors je termine. « Car celui qui peut la commettre, et qui est véritablement homme, se garderait bien de faire une convention » aux fins de supprimer l'injustice ou commise ou subie. Ce serait folie de sa part. Et donc là, je vous rappelle que je vous avais évoqué le mythe de ce berger qui trouve un anneau d'invisibilité, un anneau qui rend invisible. Et donc, étant invisible, hein, il pénètre dans le palais, tue le roi, il épouse la reine et se conduit en tyran. Donc, la morale de cette légende, c'était que tout le monde ferait la même chose à sa place. C'est-à-dire que tout le monde, s'il pouvait être impuni, agirait de même, s'il avait la force, hein, et l'impunité agirait de même. Donc c'est une vision extrêmement pessimiste, au contraire, de la nature humaine. Hein. La nature humaine nous pousse à ça. Et la seule question tout de même qu'on peut objecter à cette théorie de Glaucon, c'est que si c'est par nature que nous sommes poussés à ça, alors pourquoi est-ce que la nature nous pousserait à désirer des choses comme la royauté, les richesses, épouser la reine enfin, voilà. On peut douter que ce soit là des tendances naturelles, justement, et se dire, mais non, en fait, ce sont déjà des désirs suscités par un certain type de société, par certaines valeurs de la société. Et on peut parfaitement imaginer des sociétés où ce seraient d'autres valeurs qui seraient plutôt recherchées. Bon. Donc, on a un petit doute, hein, sur quand même le caractère naturel, en tout cas, de cette tendance. Bon, ça, c'était pour les théories de Trasimac et de Glaucon, donc dans la République. Et Platon, lui, par rapport, alors je ne veux pas vous parler de toute la théorie de Platon dans la République, mais juste par rapport à ceci, ce qui est très intéressant, c'est que Platon va considérer qu'au fond, que ce soit selon la nature ou que ce soit selon la loi, dans les deux cas, tous nos comportements, hein, donc qu'ils obéissent à la nature ou à la loi, de toute façon, nos comportements reviennent uniquement à rechercher notre intérêt. Hein. Dans les deux cas, ce qui est le fond de notre conduite, c'est l'intérêt personnel. Et il déplore, par la bouche de Glaucon, que le contrat social et l'obéissance aux lois n'aient rien de moral. Hein, c'est ce qu'il dit bien, hein. On obéit aux lois par crainte du châtiment ou parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais ce n'est pas du tout parce qu'on est moral. Donc tout ceci est non moral. Par conséquent, si des lois sont non morales, elles ne diffèrent pas beaucoup pour Platon de l'attitude naturelle. C'est une autre manière de comprendre son intérêt. Hein. Ou bien on comprend son intérêt en disant ben, on veut qu'il n'y ait aucune entrave à la force, ou bien on comprend son intérêt en disant non, j'ai intérêt à me préserver, hein, convenir de conventions avec les autres pour ne pas subir de dommages. Mais dans les deux cas, le raisonnement est le même pour Platon. C'est un calcul d'intérêt. Ce n'est d'aucune manière une morale. Et lui, donc, va s'opposer aux deux fondations, si vous voulez, de l'institution humaine, à ces deux fondations de l'institution humaine, conjointement, en essayant de les dépasser par une véritable morale, hein, en instaurant une véritable morale. Et la morale qu'il instaure, elle sera fondée non pas sur la nature, c'est-à-dire hein, sur la physis, sur tous ces instincts biologiques, mais sur une transcendance, comme vous savez, qui est la transcendance des formes. Et alors, quel est le lien ? C'est quoi les formes ? À quoi ça sert à Platon ? En fait, Platon dit que pour pouvoir être juste et enseigner la justice et pousser les hommes à devenir justes, il faut premièrement savoir ce que c'est que la justice. Il faut arriver d'abord à la définir et il faut tomber sur une définition qui convient à tout le monde. On ne peut pas se contenter de chacun avoir sa petite idée sur ce que c'est et faire à sa guise. Il faut que tout le monde reconnaisse une définition commune de la justice. Et il faut aussi que cette définition commune, elle soit toujours la même, elle soit universelle, on puisse y recourir dans n'importe quelle situation et que chaque fois on n'ait pas à discuter justement pour pas l'un disant c'est ceci, l'autre disant c'est cela, parce qu'évidemment du coup ça ne résout pas les conflits. Pour que ce soit tel, selon Platon, il faut que ce soit totalement non relatif. Et c'est quoi l'opposé du relatif ? C'est l'absolu. Il faut que cette définition de la justice soit absolue, soit indépendante par conséquent des désirs, des opinions, des pensées des êtres humains. Il faut qu'elle existe indépendamment de nous. Parce que tout ce qui est créé par nous, par les hommes, est sujet à discussion. Tout ce qui est créé par les hommes peut être créé différemment par des hommes différents. Et donc, rien de tout ça ne peut être absolu. Or, Platon, il veut de l'absolu. Hein. Il veut quelque chose de non discutable. Et c'est pourquoi il dit, il doit exister une justice qui n'est pas la justice créée par les hommes, mais dont la justice créée à laquelle, par rapport à laquelle la justice instituée doit se régler, hein, par rapport à laquelle elle doit se régler. Donc, il faut prendre comme modèle. Et voilà le rôle de la forme pour Platon, hein, d'une forme qui est indépendante de nous, qui est éternelle, qui est la même pour tout le monde. Mais il faut d'abord arriver à la connaître, d'où tout le développement alors dans la suite de la République pour arriver à connaître finalement quelle est cette définition de la justice. Mais donc on voit bien hein, pourquoi cette théorie platonicienne n'a plus rien à voir avec cette opposition nature-loi telle qu'elle est présentée par tous les autres sophistes, hein, qui se réduit de toute façon à une manière de voir qu'est-ce qui est le plus avantageux. Alors, il y avait un dernier personnage qu'on avait rapidement évoqué, qui était Calliclès. Calliclès, ça c'est dans le Gorgias, dans le dialogue Gorgias de Platon. Et Calliclès avait proposé un discours extrêmement radical, dans lequel il disait que le droit naturel, et il utilisait le mot, enfin, l'expression « droit naturel hein, », que le droit naturel consistait à ce que chacun, enfin, plus exactement, que les plus forts, qui sont aussi les meilleurs et les plus capables, donc il identifiait hein, les trois qualités, le plus fort, le meilleur, le plus capable, que cela, eh bien, il puisse l'emporter sur tous les autres. La nature fait en sorte que, enfin, enjoint, ordonne qu'il l'emporte sur tous les autres et que personne ne leur fasse obstacle. Alors, pourquoi il peut dire que c'est par nature ? Alors, ben, c'est parce que si quelqu'un a ses qualités naturelles, de fait, il y a des chances qu'il l'emporte sur un adversaire. Je veux dire, s'il est plus fort, il va l'écraser. S'il est plus intelligent, il va l'emporter dans une autre situation. S'il est plus capable de faire quelque chose, il va l'emporter aussi d'une autre façon. Donc, il y a de multiples manières, effectivement, où, si on a plus de qualités, on l'emporte sur les autres. Donc, il faut voir ça dans un éventail de qualités de toutes sortes, de dispositions naturelles, donc, des individus. Et Calliclès invoque une comparaison avec les animaux, mais il le fait très rapidement. Il dit, on le voit aussi chez les animaux. Que le plus fort, le plus capable l'emporte sur les autres. Mais là, on peut se poser la question de cette comparaison. Il faut toujours se méfier de la comparaison, comme Chantal me le disait encore récemment, il faut toujours se méfier de la comparaison entre l'être humain et les autres animaux, parce qu'on va chercher chez les autres animaux ce qui nous arrange à ce moment-là, évidemment. Il y a tellement de comportements divers chez les animaux qu'on peut aller chercher à peu près tout et n'importe quoi. Et donc, on peut se demander si, ici, il veut dire que au sein d'une même espèce, au sein d'un même groupe social chez les animaux, il y en a toujours un qui domine les autres. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire ? Et que ça, c'est donc son modèle naturel. C'est douteux parce que les Grecs savaient déjà très bien que ce n'est pas le cas dans toutes les espèces. Il y a des tas d'espèces qui ne sont pas sociales ou qui ne vivent pas en groupe hiérarchisé. Bon. Donc, ce n'est pas toujours vrai. Ou bien est-ce qu'il veut dire que c'est une domination entre espèces ? C'est-à-dire qu'il y a des espèces prédatrices et des espèces qui sont les proies des prédateurs. Donc c'est la raison du plus fort est toujours la meilleure, le loup mangera toujours l'agneau et pas l'inverse. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire ? Mais dans ce cas, si c'est ça qu'il veut dire, alors cet instinct prédateur s'arrête aux besoins naturels. C'est-à-dire que le loup il mange l'agneau quand il a faim. Il ne va pas tuer les agneaux pour le plaisir ou parce que ça va lui rapporter de l'argent. Il n'y a pas d'autre motivation. C'est une motivation strictement physiologique. Et ça s'arrête quand ce besoin est satisfait. Or, ce n'est pas de ça que parle Calliclès. Calliclès, quand il dit que les plus forts doivent l'emporter et doivent jouir sans entrave, il ne veut pas dire qu'ils doivent simplement répondre à leurs besoins. Donc, je l'écris, je y reviens. Donc, les plus forts, qui sont aussi les meilleurs et les plus capables, doivent l'emporter. Ça, c'est la règle naturelle. Et à quoi ça s'oppose d'abord ? Ça s'oppose aussi à un contrat social, mais ce contrat social a été fait, selon Calliclès, par les faibles contre les forts. Donc, c'est pas tellement. Enfin, c'est un tout petit peu différent de celui de Glaucon. Un Glaucon qui dit que ceux qui ne l'emportaient pas tout le temps, enfin, ce n'était pas nécessairement des dominés perpétuels non plus, mais ceux qui ne l'emportaient pas tout le temps, ils se sont mis d'accord entre eux, c'était réciproque. Ici, c'est beaucoup plus une opposition duel entre les faibles d'un côté, les forts de l'autre. Les forts dominaient jusque-là, les faibles se sont dit tous ensemble, nous allons imposer aux forts une loi qui leur interdira de s'en prendre encore à nous, de nous attaquer, de nous agresser, de nous nuire. Et donc, en fait, comment est-ce qu'ils ont agi pour ça, puisqu'ils étaient tout le temps en infériorité ? Ils ont imposé la morale. Et voilà le discours de Calliclès. Les faibles inventent la morale. Alors, donc, opposent la morale aux forts, pour leur donner honte, dit-il, de leur supériorité. Pour qu'ils aient honte de leur d'exercer ainsi leur supériorité sur eux. Alors là, évidemment, on a tout à fait la thèse de Nietzsche dans la généalogie de la morale. C'est la thèse que reprend Nietzsche, c'est la généalogie de la morale, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu un renversement historique. On ne peut pas le situer très précisément, mais on peut en tout cas en retrouver des traces culturelles, d'un moment où on a instauré la morale, alors que cette domination des forts ne se revendiquait d'aucune justification morale. Il n'en avait pas besoin, il ne sentait pas la nécessité. Et à un moment, la morale est venue effectivement renverser cette suprématie de ceux qui avaient les qualités naturelles. Donc voilà ce discours de Calliclès et... Est-ce que je vous disais que j'allais encore préciser ? Oui, alors ce qui est important de se demander à propos de ce discours, c'est, mais puisque, alors, qu'est-ce que, au juste, comment est-ce que Calliclès se représente dans une société, hein, donc pas dans un état de nature, dans une société civilisée telle que celle d'Athènes, comment est-ce qu'il se représente cette suprématie, cette supériorité ou ces privilèges d'effort? Qu'est-ce qu'il veut dire exactement par là? Alors, ça, il vient à le préciser progressivement parce que Socrate l'interroge justement sur sa conception. Et donc, progressivement, il en vient à dire que, d'abord, dans une société telle que celle d'Athènes, les forts, ce sont pas non plus ceux qui ont nécessairement la force physique, ce sont pour lui les plus courageux et les plus intelligents. Il utilise ces deux qualités-là en disant ce sont les qualités qui font les chefs d'État. Ce sont les qualités qui font les hommes politiques qui mènent les cités. Les hommes qui mènent les cités. Ils doivent avoir intelligence et courage. Alors, intelligence et courage parce qu'il y a à la fois de la stratégie, de la... comment dire, de la capacité à gérer toutes les affaires de la cité, mais en plus, il y a aussi le courage guerrier. Hein, donc, on est dans une civilisation à la fois guerrière et, disons, avec une culture assez avancée, à la fois des affaires politiques, économiques et culturelles. Donc, ce sont ceux-là, les forts de Calliclès. Hein, ce ne sont pas non plus simplement ceux qui ont une force animale, disons. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent comme privilège? Qu'est-ce qu'ils demandent comme privilège, finalement? Alors, Calliclès dit, mais ils demandent le droit naturel de réaliser tous leurs désirs. De réaliser tous leurs désirs sans entrave. Mais c'est quoi ces désirs? Alors, parce que Socrate, chaque fois, lui dit, oui, mais je ne comprends toujours pas, c'est quoi ces désirs? Est-ce que ça correspond à manger quand ils ont faim, boire quand ils ont soif, se couvrir quand ils ont froid? Calliclès, non, il dit, ben non, ça, il ne suffit pas de ça. Pourquoi? Parce que s'il suffisait de ça, alors au moment où le besoin est satisfait, il ne désirerait plus rien, jusqu'à ce que ça revienne. Bon. Mais Calliclès dit, mais n'avoir besoin de rien, n'avoir plus de désir, ni de besoin, ni d'envie, c'est être comme une pierre ou un mort. Ça n'a aucun intérêt. La vraie vie, c'est avoir constamment envie de plus. Ça, c'est la vraie vie de l'homme, voilà, de l'homme plein de qualités. C'est avoir tout le temps envie de plus. Et donc, de tout le temps relancer son désir sur de nouveaux objets. Tout le temps viser des nouvelles conquêtes. Tout le temps vouloir autre chose. Ne jamais s'arrêter. Ne jamais être en repos. Ne jamais être dans l'état de tranquillité. Et donc, on n'est pas du tout dans une éthique de style épicurien, qui est justement une éthique de la satisfaction des besoins le plus simplement possible, de manière à atteindre le plus vite possible le stade de tranquillité. Calliclès méprise la tranquillité et le repos. Il dit que c'est bon pour les faibles, ça, avoir envie de se reposer. Non, l'homme qui est plein de force et de vitalité, il veut toujours autre chose. Alors, évidemment, il y a une toute petite chose qui manque et dont on n'aura pas l'indication dans ce dialogue, c'est, mais ce genre de choses dont ils veulent toujours plus, est-ce que ça se limite à des désirs, justement, ou à des plaisirs très communs, je veux dire, la nourriture, le sexe, la richesse, est-ce que ce sera simplement ça, ou bien est-ce que dans l'esprit de Calliclès, puisqu'il parle quand même d'hommes courageux et intelligents, est-ce qu'il y a une place pour la visée d'autres types de motivation, de fin, de réalisation. Est-ce qu'il y a une place, par exemple, pour une morale aristocratique dans le discours de Calliclès, hein? Est-ce qu'on peut l'interpréter dans un sens aristocratique? Alors, je pense que cette indication par le fait que ces hommes sont courageux et intelligents, effectivement, va plutôt dans le sens d'une morale de type aristocratique, hein, d'une aristocratie guerrière et dirigeante. Et il y a un interprète assez reconnu des sophistes qui s'appelle Kerferd, Georges Kerferd, vous aurez sur les documents les indications bibliographiques, qui justement est tout à fait en faveur de cette interprétation-là. Il dit que dans le discours de Calliclès se reconnaît, alors je vais vous donner la formule exacte, l'idée de puissance et de réussite qui caractérise le héros homérique. Le héros homérique, c'est le héros aristocratique. Hein, c'est celui qui se réalise à la fois par son courage, son sens de l'honneur, son sens du devoir, son intelligence aussi, sa capacité à régner sur son petit royaume. Bon, tout ça, c'est effectivement la réalisation. Alors, est-ce que c'est ça, hein, le discours de Calliclès? Est-ce que finalement, ce qu'il essaye d'opposer à une sorte de, hein, de, de, de morale du commun, est-ce que ce serait cette grandeur aristocratique ? Je pense que ce n'est pas explicite dans le texte, qu'il y a certaines indications qui sont en faveur de cette interprétation, et que donc on peut la laisser ouverte. Hein, c'est une possibilité. En tout cas, c'est une possibilité assez riche, et c'est certain que c'est la possibilité qu'a choisi Nietzsche. Hein, c'est évident que c'est dans ce sens-là qu'il l'a comprise et qu'il l'a reprise à son compte. Voilà pour Calliclès. Et maintenant, donc, dans l'ensemble de ces opinions qui étaient en débat assurément hein, à cette époque, même si on n'est pas très très sûr de quel était le personnage qui défendait chacune, donc dans l'ensemble de ces opinions en débat, où se situent Protagoras et Gorgias ? Parce que Protagoras et Gorgias, ce sont les sophistes les plus connus, non seulement pour nous, mais aussi à l'époque. Hein, ce sont ceux que tout le monde cite tout le temps, qui étaient des véritables stars, hein, chez qui les gens se précipitaient pour avoir des leçons. Donc, eux, on a l'impression qu'ils doivent être des grands représentants alors de ces tendances. Alors, si on va voir les deux dialogues hein, qui portent leurs deux noms respectifs, on se rend compte que Platon, en fin de compte, ne les présente pas du tout comme ça. Il les présente d'une manière beaucoup plus modérée, comme des gens qui sont très soucieux de respecter la morale commune, de respecter les lois, et de ne pas avoir de prétentions choquantes par rapport à la pensée dominante. Et c'est très étonnant, parce que voilà, on s'attendrait évidemment à ce qu'ils correspondent à ce genre de déclaration qu'on attribue en général aux sophistes. Eh bien non, eux, les deux sophistes les plus reconnus, ce n'est pas ça qu'ils défendent. Donc on va voir un petit peu, non, chacun d'entre eux, comment ils présentent sa propre fonction, sa propre activité d'abord, et comment ils se situent par rapport à cette question des lois, du respect des lois. Alors, Gorgias d'abord, donc dans le dialogue Gorgias, est interrogé par Socrate sur ce qu'il pratique et ce qu'il enseigne, c'est-à-dire la rhétorique. Et Gorgias dit que la rhétorique, c'est une technique de persuasion, une technique qui rend celui qui la pratique libre et qui lui permet de l'emporter dans un débat, dans une des instances politiques de la cité. Donc ça peut être dans une assemblée, un conseil ou dans un tribunal. Et donc ça le rend libre parce qu'il est capable de imposer son opinion, enfin faire admettre, faire adopter son opinion. Et ça, c'est donc par la force du discours, par la persuasion, qui induit chez les auditeurs non pas une connaissance, il ne s'agit pas de science, hein, il ne s'agit pas de science, mais une pistis en grec, c'est-à-dire une conviction, une croyance, hein, une conviction, une opinion. On se dit, ah oui, je suis convaincu que ce que tu proposes est la meilleure solution pour telle et telle situation de la cité. Donc voilà le rôle de l'orateur. Et immédiatement, Gorgias s'empresse de dire, et attention, si un orateur utilise mal son art, utilise son art rhétorique pour défendre une injustice, pour faire emporter une mauvaise cause, eh bien, il ne faut surtout pas en rendre responsable son professeur de rhétorique. Ce n'est pas la faute du professeur. C'est la même chose que si on reprochait à un professeur de pugilat le fait que son élève a utilisé mal sa force et son art du pugilat. Donc, on ne peut pas rendre le professeur responsable. Et on voit ce besoin de tout de suite se démarquer par rapport à ce qui était une mauvaise réputation des sophistes, hein, parce que cette mauvaise réputation, elle régnait. On en a la certitude quand on voit la comédie d'Aristophane qui s'appelle Les Nuées. Hein, Les Nuées d'Aristophane, c'est en 423 ou 6, par là, dans les années 423. C'est une comédie qui fait rire aux dépens des sophistes. Et là, on y voit les sophistes, mais ils font vraiment... Alors, leur but, c'est faire triompher la mauvaise cause. Hein, c'est faire emporter l'injustice, c'est faire que les fils dépouillent leur père. Enfin bon, toutes les abominations sont défendues par les sophistes. Et alors, ce qui est très drôle aussi, c'est que le sophiste principal de cette comédie, c'est Socrate. Alors, ça, c'est évidemment... c'est un bel humoriste, hein, Aristophane. Bon. Mais donc, évidemment, ils avaient cette mauvaise réputation, et c'est pourquoi Gorgias s'empresse hein, de se démarquer de ça et de dire « Mais non, nous, pas du tout. Nous, ce qu'on enseigne, c'est à utiliser la rhétorique pour la bonne cause, pour défendre la justice et pour défendre le bien commun dans la cité. » Alors, Socrate se met à l'interroger et, évidemment, essaye de le mettre en défaut. Et d'abord, il le mène à se contredire en disant ceci. Il lui demande « Mais les jeunes gens qui viennent suivre tes leçons, est-ce qu'ils savent déjà ce qu'est la justice ou bien est-ce que c'est toi qui leur apprends ?» Et Gorgias dit « ça peut être l'un ou l'autre. Ou bien ils le savent déjà, ou bien moi je leur apprends, mais en tout cas, quand ils sortent d'ici, ils savent ce qu'est la justice. Alors Socrate dit, et c'est là qu'il est sophiste, mais vraiment, c'est un procédé sophistique, vous allez voir, il dit, mais quelqu'un qui connaît l'architecture, c'est un architecte, oui. Quelqu'un qui connaît la médecine, c'est un médecin, oui. Quelqu'un qui connaît la musique, c'est un musicien, oui. Donc, quelqu'un qui connaît la justice, c'est un juste. Et hop, et Gorgias commet l'erreur de dire oui, évidemment. Il n'aurait jamais dû accepter. Mais comme il commet l'erreur de dire oui, alors Socrate peut conclure, mais alors, ce que tu disais tout à l'heure n'est pas possible, que quelqu'un qui sort de tes leçons puisse utiliser son art de manière injuste. C'est impossible, puisqu'il est juste. Ah donc, alors Gorgias est très embarrassé, il n'arrive pas à s'en sortir. Et c'est à ce moment-là qu'un élève à lui qui est présent, qui s'appelle Polos, intervient en rappelant à Socrate, oui, mais tout de même, Socrate, tu n'as pas répondu au problème principal qui est que, pour la plupart des gens, commettre l'injustice n'est pas un mal si on n'est pas pris, si on n'est pas découvert. Hein. Ce n'est un mal que si on est découvert. Donc, comment tu résous ce problème de fond par rapport à la justice? Alors, Socrate ne peut pas lui répondre non plus autrement que par un sophisme. Et ça, c'est vraiment dommage. Hein. On sent un Socrate qui, en fait, n'a pas la possibilité de donner une alternative, d'indiquer une alternative. C'est Platon qui la développera plus tard, l'alternative. Donc, Socrate se contente de nouveau un raisonnement sophistique. Alors, je ne vais pas en donner les détails parce que c'est assez long, mais c'est basé, et ça c'est très important parce que ça revient dans plusieurs dialogues, c'est basé sur un jeu de mots, sur les multiples significations des mots « bon » et « mauvais ». Hein, le couple d'opposés « bon » et « mauvais », il peut signifier beaucoup de choses, mais surtout, principalement, deux choses très opposées les unes aux autres. Une signification, c'est « avantageux » et « désavantageux ». Hein, est-ce que ceci est bon pour moi ? Ça veut dire, est-ce que c'est avantageux, utile, est-ce que ça va me faire du bien, hein? Et le mauvais, au contraire, ça va être désavantageux ou nuisible. Donc ça, c'est une des significations. Et l'autre signification des mêmes termes, c'est le bon au sens moral et le mauvais au sens moral. Donc on peut appeler aussi le beau et le laid. Le beau et le laid, donc, ce sont les mêmes termes qui sont utilisés. Dire, par exemple, si on dit une bonne action ou une mauvaise action, ah, donc c'est le cas encore en français, hein. Si on dit une bonne ou une mauvaise action, c'est au sens moral. Hein, c'est une belle action ou une laide, enfin, ou une action honteuse. Et donc en jouant sur l'identification, en fait, en faisant semblant d'ignorer le contraste entre les deux, Socrate fait dire à ses interlocuteurs que chaque fois qu'on fait une action bonne pour soi, en croyant que ce sera avantageux, on fait aussi une action qui est belle et morale. Et donc on arrive à des... en fait, tout simplement, à des contradictions qu'on n'arrive pas à surmonter. Donc, le raisonnement arrive dans une aporie. Hein, on est dans une aporie, on est dans une impasse. On ne peut pas surmonter ça. Et c'est à ce moment-là que Calliclès intervient. Donc, je l'ai fait précéder, hein, mais Calliclès, c'est dans le Gorgias. C'est à ce moment-là qu'il intervient, de manière vraiment énervée, en disant « Socrate, tu nous fatigues avec tes oppositions sophistiques », il le dit. Et en fait, tout simplement, il faut faire la différence entre ce qui est par nature et ce qui est pour la loi. Ce qui est bon pour la nature n'est pas ce qui est bon pour la loi, un point c'est tout. En quoi il n'a pas tort, hein? En quoi, évidemment, il n'a pas tort par rapport à la signification des termes. Mais donc, on n'aura pas plus d'indications. Donc, pour résumer, alors, pour illustrer la position de Gorgias, en fin de compte, qu'est-ce qu'il dit Gorgias? Jusqu'ici, il a dit très peu de choses. Qu'est-ce qu'il s'est contenté de dire? C'est que lui, il respectait la justice de la cité, il respectait les lois, il donnait des leçons à ses élèves dans ce sens-là pour qu'ils mettent leur art au service de la justice et non de l'injustice. Donc, qu'est-ce qu'il a donné comme définition de la justice? Rien. Il a juste dit qu'il faisait comme les lois le disaient. Autrement dit, il se repose sur la conception commune de la justice. Hein, donc, qu'il identifie à la morale. Donc, Gorgias, il est pour le respect des lois établies, hein, des choses établies, qui sont identiques à la morale, en tout cas à la morale sociale, à la morale courante, à la morale telle qu'on la prône, telle qu'on dans l'éducation des enfants ou dans l'éducation des citoyens. Et il n'a pas de thèse, du moins exprimée, sur le rapport que ça peut avoir avec la nature. Et là, je vais vous faire remarquer que par rapport à ce qu'on a déjà vu de Gorgias, c'est-à-dire, si vous vous souvenez, son discours contre Parménide, hein, son discours sur le non-être, où il essayait de démontrer que, contrairement à ce que dit Parménide, il n'y a rien qui est, hein, ou s'il y a quelque chose qui est, ce n'est pas connaissable, ou s'il y a quelque chose qui est connaissable, ce n'est pas communicable aux autres. Donc, toute cette réfutation du discours de Parménide, on a vu, visait principalement à autonomiser totalement le langage par rapport à l'être, par rapport aux choses. Et peu importe qu'on considère l'être ici comme les phénomènes, hein, ou comme l'être de Parménide. Mais en tout cas, c'était autonomiser le langage. Et ça, ça correspondait aussi à ses discours hein, en l'honneur d'Hélène, ou bon, ses autres discours de défense de quelqu'un. C'était toujours pour dire le discours est tout puissant et on ne sait pas, on ne sait absolument pas quel est le rapport entre le discours et les choses. Hein, on avait vu ça, on ne peut pas, à partir du langage, dire quelque chose des choses elles-mêmes. Nous n'avons aucune garantie que tout ce que nous disons sous forme de langage cohérent hein, et, soit pour autant un reflet des choses, un miroir des choses. On n'en sait rien. Est-ce que le langage parle du réel ou pas? Il disait qu'il n'y avait aucun moyen de le savoir. Et en fait, il y a un rapport avec ceci. Parce que Gorgias très clairement se cantonne dans cette sphère. Très clairement, il cantonne la rhétorique, c'est-à-dire l'art du langage persuasif, dans une sphère de l'institution, dans la sphère de l'institué. C'est-à-dire de ce qui a été décidé par le langage, par le code, hein, qui a été écrit et qui est véhiculé. Bon, alors, ben, ça suppose quand même une communication, mais ça ne suppose pas aucune thèse par rapport à ce qu'il en est naturellement ou à ce qu'il en est dans le devoir-être hein, ou dans ce qui serait un ordre indépendant de nous. Gorgias s'en tient strictement au relativisme culturel. Il n'a même pas une thèse sur ce qu'il pourrait y avoir d'autre que le relativisme culturel. Il y a ce que institue chaque groupe humain et il n'y a rien d'autre en dehors de ça. Ça correspond tout à fait à son discours contre l'ontologie. Hein. On ne peut pas parler d'un discours ontologique puisqu'il essaie justement de démonter totalement l'ontologie. Hein. Il n'y a rien en dehors de ce qu'institue le langage. Et ceci est parfaitement conforme. Il y a ce qui est institué par le langage, les lois, la morale, ce qu'on dit tout autour, la persuasion qu'on utilise pour les défendre, et c'est tout. Pas de thèse sur la nature. Alors on va voir que c'est complètement différent chez Protagoras. Complètement différent chez Protagoras parce que lui, au contraire, il a une thèse qui consiste à fonder l'institué sur la nature. Là, chez Protagoras, on va avoir une fondation d'une certaine institution légale sur une certaine conception de la nature. Donc ça, c'est dans le dialogue qui s'appelle Protagoras. Et là aussi, ce dialogue donc, commence par des questions de Socrate. Hein. Protagoras, c'est vraiment une star. Hein. Il est arrivé à Athènes, il est hébergé dans une famille amie. Et, tout Athènes s'est précipité dans cette famille pour aller le voir, pour l'écouter discourir. Et, alors il est mis en scène de manière très drôle, bon, c'est quelqu'un qui a une grande cape, qui se promène de long en large, avec tout le monde derrière lui. Et chaque fois qu'il se retourne, en fait, tout le monde s'écarte vite pour repasser derrière lui. Enfin, il y a toute une mise en scène, oui, Platon est très fort pour ça, hein, pour camper un personnage. Bon. Donc bien sûr, ce Protagoras se prend pour extraordinaire. Mais, alors, Socrate, là. Mais vous allez voir, je veux dire, au-delà de cette moquerie, ce qu'il dit est extraordinairement intéressant. Hein, et c'est Platon qui le dit, donc. Socrate lui commence par lui demander, donc, quelle est son activité, son enseignement, sur quoi ça porte, en quoi ça consiste. Et Protagoras dit que lui, il se reconnaît comme sophiste, il n'a pas peur du fait que le mot est devenu péjoratif, il se reconnaît comme sophiste et il défend le fait que la sophistique est une pratique tout à fait utile et légale. Et qui consiste à bien gérer son patrimoine privé et bien gérer les affaires de la cité. Alors Socrate lui dit, en somme, tu enseignes l'art politique. Hein, l'art politique, l'art d'être un bon citoyen. Et Protagoras dit, c'est exactement ça, j'enseigne à être un bon citoyen. Je me demande si je vais vous lire un petit passage aussi ici. Non, ça sera plus loin. Voilà, non, c'est plus loin. Socrate doute du fait que l'art politique puisse s'enseigner. Il dit que l'art politique, c'est effectivement crucial dans les cités, mais est-ce que ça peut s'enseigner? Et il lui objecte deux choses, deux observations. Socrate. Hein, il lui dit, premièrement, on constate qu'il n'y a pas de spécialistes de la politique comme il y a des spécialistes dans toutes les techniques. Quand on est à l'Assemblée du peuple, s'il s'agit de construire un rempart, on va consulter des architectes, des entrepreneurs. S'il s'agit de construire un navire pour la flotte, on va consulter les spécialistes de cette construction-là. S'il s'agit de stratégie, on va consulter le stratège, etc. Il y aura chaque fois un spécialiste à consulter et ensuite l'Assemblée prendra sa décision. Mais l'art politique, c'est qui le spécialiste de l'art politique? Il n'y en a pas. Hein, on considère que c'est justement plutôt l'Assemblée qui est l'art politique, puisque c'est l'Assemblée qui prend la décision. Hein, remarquez bien ici toute l'opposition à une technocratie dans la démocratie athénienne. Hein, c'est tout à fait explicite. Le technicien n'a pas la puissance, n'a pas la puissance de décision. Il expose son savoir et puis le peuple décide. C'est comme ça que, évidemment, doit se passer normalement une décision. Et la deuxième objection de Socrate, c'est que les hommes politiques les plus brillants, les plus célèbres, comme Périclès, etc., on constate qu'ils ne sont pas arrivés à transmettre leurs qualités et leur art politique à leurs propres fils. Alors comment ça se fait ? Si ça peut s'enseigner, pourquoi ils ne l'auraient pas en tout premier lieu enseigné à leurs propres fils ? Et Protagoras lui dit, pas de problème, je vais te répondre. Et je vais te répondre en deux temps. D'abord, je vais te raconter un mythe, et ensuite, je passerai à un raisonnement. Et donc, comme ça, il introduit le fameux mythe de Protagoras, qui est un mythe, qui est une variante de la légende traditionnelle de Prométhée et Épiméthée. Donc, Prométhée et Épiméthée, c'était deux frères, deux fils de titans. Alors, c'est quoi les titans ? Donc, par rapport aux dieux olympiens, les titans, c'était des divinités antérieures aux dieux olympiens. Ce sont des fils de Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre, directement des fils du ciel et de la terre. Et Zeus est une génération après, mais quand Zeus est né, il y a eu toute l'histoire avec Cronos, il y a toute cette histoire terrible, où le fils lutte toujours contre le père, mais bref. À un moment, les titans se sont révoltés contre Zeus. Zeus les a vaincus. Il a pris la suprématie donc, dans tout le monde des dieux. Et les titans, du coup, deviennent, sous ses ordres, au minimum. Bon. Donc, il ordonne à ses deux fils de titans, Prométhée et Épiméthée, de préparer les races d'animaux mortels à venir sur la Terre. Parce qu'avant ça, la Terre n'était pas encore peuplée de ces animaux. Et donc, eux, ils doivent tout préparer chaque animal et donner à chacun des animaux, donner à chaque espèce un atout pour se défendre, acquérir sa subsistance, se protéger de toutes sortes d'intempéries, de difficultés. Et donc, ils ont un certain stock de qualités qu'ils peuvent distribuer à l'ensemble des espèces. Et donc, ils se mettent. Alors, Épiméthée dit à son frère : écoute, laisse-moi faire, moi j'ai envie de tout faire et toi tu contrôleras après si c'est bien fait. Alors, remarquez, ils auraient mieux fait de faire l'inverse parce que Épiméthée, ça veut dire celui qui réfléchit après. Et Prométhée, c'est celui qui réfléchit avant. Alors peut-être qu'ils auraient mieux fait de faire l'inverse. Et il se fait que, effectivement, Épiméthée commence à répartir tout ce qu'il a, donc la force, la rapidité, le vol, les fourrures, les cornes, les sabots, toutes les aptitudes possibles. Et il veille bien aussi, par exemple, à ce que les animaux qui mangent d'autres animaux aient une progéniture plus petite que ceux qui sont herbivores, c'est pour maintenir l'équilibre entre les espèces, pour qu'il n'y en ait pas une qui ait la suprématie sur les autres. Donc il veille à l'équilibre. Mais quand il a tout fini, il se rend compte qu'il a oublié l'homme. Et l'être humain, il est là, encore tout nu, sans armes, sans protection, sans aucun moyen ni de se défendre, ni de se nourrir. Et il n'a plus rien, il a épuisé tout son stock de qualité. Alors il se tourne vers son frère, il appelle au secours, et Prométhée, en fait, lui dit, écoute, on n'a plus le temps de tout recommencer. Il faut que, l'heure est venue de faire monter toutes ces espèces sur la Terre, donc voilà comment on va faire, je vais aller voler le feu et l'habileté technique à Héphaïstos et à Athéna, et on va les donner à l'être humain. Et donc c'est ça qu'il fait, et comme vous le savez, il a été terriblement puni pour avoir fait ça. Donc il apporte le feu et l'habileté technique aux êtres humains, et comme ça, donc, cette espèce-là peut elle aussi subsister, se défendre contre les autres, et fabriquer elle-même tout ce dont elle a besoin. Voilà, l'habileté technique, ça lui permet de fabriquer tout ce qu'Épiméthée ne lui a pas donné. Mais malheureusement, alors même s'ils arrivaient à subsister, leur problème, c'était plutôt qu'entre eux, ils n'arrêtaient pas de s'entretuer. Ils n'arrêtaient pas de s'entretuer parce qu'il n'y avait pas de concorde entre eux. Ils utilisaient aussi leur habileté technique pour se nuire les uns aux autres. Et Zeus, voyant ça, et craignant que l'espèce disparaisse complètement, en s'entretuant, décide de leur faire envoyer par Hermès deux qualités divines essentielles, c'est-à-dire le respect et la justice. Le respect et la justice. Et le respect, il faut le comprendre dans le sens de la maîtrise de soi, dans le sens de la modération. Bon, parce qu'après, il utilise le mot plutôt modération, donc c'est clairement dans ce sens-là qu'il entend. Donc le respect, la modération et la justice. Et à partir du moment où les hommes ont ça, alors ils commencent à s'organiser en cité. Les cités sont bien réglées, elles obéissent à des lois. Il y a la concorde civile qui règne et donc ils sont sauvés. Et c'est l'art politique. Et voilà ce que c'est que l'art politique. C'est à partir de ce moment-là seulement qu'on peut dire que les hommes sont politiques. À partir du moment où ils ont ces deux qualités essentielles qui leur permettent de s'arranger entre eux, de s'organiser entre eux, d'émettre des règles, se mettre d'accord sur des règles et vivre de cette façon. Donc ça, c'est l'origine de la politique. Mais ce qui est très important, et là où il y a vraiment une fondation essentielle de la part de Protagoras, c'est que Zeus ajoute à Hermès, tu donneras ces deux qualités à tous les êtres humains, à chacun de ces individus et non pas à quelques-uns. Tu dois les donner à tous. Et en plus, tu ajouteras cette loi qui vient directement de moi, qui est que si l'un d'entre eux ne se montre pas capable d'appliquer ces qualités, les autres auront le droit de le tuer. Comme une maladie de la cité, dit-il. Donc celui qui n'est pas capable de justice et de modération, les autres auront le droit de la tuer. Autrement dit, on est en train de fonder là sur un décret divin, mais il ne faut pas se leurrer, c'est une allégorie. C'est une allégorie pour évoquer quelque chose de naturel d'inné en l'homme. On est en train donc de mettre dans la nature de l'homme une justification, une légitimation de la pratique qui consiste à exiger un minimum de respect des règles. Sinon, on a le droit de sanctionner. Donc, en fait, vous avez une fondation. C'est le point tout à fait différent du reste du tableau. Ici, donc, vous avez quoi par nature ce que nous dit l'allégorie par nature, c'est que tous les hommes possèdent la justice et le respect. Ça, c'est naturel. C'est naturel puisque c'est donné par Zeus, c'est inné, chaque homme doit le posséder nécessairement. L'allégorie, ce que l'allégorie met sous le don divin, c'est un don de la nature. Et ceci permet de fonder, donc il y a vraiment une relation ici d'appui, d'étayage, permet de fonder le respect de la loi. Et donne aussi le droit, le droit de juger quelqu'un qui ne correspondrait pas à cette exigence-là. Alors, ça, c'est pour le mythe. Donc, ça, c'est ce que permet déjà de dire seulement le mythe de Protagoras. Mais il avait aussi annoncé un raisonnement qui allait suivre pour répondre aux deux doutes émis par Socrate. Alors, le premier doute, donc, c'était... Est-ce que ça peut s'enseigner? Parce que jusqu'à présent, par le mythe, on ne voit pas trop où l'enseignement intervient. Alors, Protagoras poursuit. En fait, il faut que ça s'enseigne parce que... Alors, c'est là que je vais vous lire un petit extrait. Il va d'abord montrer pourquoi il pense que les qualités donc fondamentales sur lesquelles repose toute politique, donc la justice et la modération, pourquoi ces qualités, à son avis, ne sont pas simplement innées. Alors on va voir, ce n'est pas une contradiction par rapport à ce qu'il dit là, on va voir comment ça se complète. Et son argument, c'est que pour toutes les qualités qui sont innées, comme la santé, la beauté, l'aptitude physique, bon, pour toutes ces qualités-là, il n'y a pas de reproche vis-à-vis de celui qui ne les possède pas. Il y a peut-être éventuellement un peu de pitié, c'est dommage pour lui, il est moche, c'est dommage, mais on ne va pas le lui reprocher. En revanche, si quelqu'un n'a pas la justice et la modération, on va le lui reprocher, de la même manière que toutes les autres qualités dont on estime qu'on peut les acquérir par un entraînement, ou par une étude, ou par un exercice, ou par une volonté. Donc on considère que l'individu est responsable du fait de les acquérir ou pas. Donc la justice et la modération, c'est bien quelque chose qu'on considère qu'il faut acquérir, qui n'est pas d'emblée donné, qui n'est pas spontané. Il faut l'acquérir. Et donc, on l'encourage par des blâmes et des punitions. Et il dit donc que dans toutes les civilisations, on punit ceux qui ne respectent pas ça. Et, alors il y a une théorie de la punition qui est intéressante aussi, on ne punit pas pour venger une action passée, parce que bon, l'action elle est passée, elle a eu lieu de toute façon, ça ne change plus rien de la punir. Non, on punit en fonction de l'avenir, on punit en vue de l'avenir pour dissuader de recommencer, pour dissuader le coupable de recommencer ou dissuader les autres de l'imiter. Donc la punition a un sens dissuasif. Et donc tout ça, ça prouve évidemment qu'il y a une éducation à la justice. Évidemment qu'il y en a une, hein. Il suffit d'observer ça, il suffit d'observer comment tout le monde en fait se comporte vis-à-vis des jeunes et des enfants pour prouver qu'il y a bien une éducation à la justice. Maintenant, donc, voilà le détail de ce passage donc du Protagoras. Dès que l'enfant comprend ce qu'on lui dit, nourrice, mère, pédagogue, sans parler du père lui-même, s'évertue à le perfectionner. Chaque action, chaque parole sert de texte à un enseignement direct. Telle chose est juste, lui dit-on, telle autre injuste. Ceci est beau, ceci est honteux. Ceci est saint, ceci est impie. Fais ceci, ne fais pas cela. C'est exactement, évidemment, ce qu'on dit aux enfants. Il se peut que l'enfant obéisse volontairement. Il se peut qu'il soit indocile. Alors, comme on fait d'un bois courbé et gauchi, on le redresse par les menaces et par les coups. Puis, on envoie les enfants à l'école et on recommande beaucoup plus aux maîtres de veiller à leur bon comportement que de leur apprendre les lettres et la cithare. Les maîtres y veillent, en effet, et quand leurs élèves savent lire et sont à même de comprendre ce qui est écrit, on leur donne à lire sur leur banc les œuvres des grands poètes et on leur fait apprendre par cœur. Ils y trouvent quantité de préceptes, quantité de récits à la louange et à la gloire des héros d'autrefois. Effectivement, on en prenait encore le grec dans Homère, hein, à cette époque. Bon. On veut que l'enfant, pris d'émulation, les imite et s'efforce de leur ressembler. Les maîtres de cithare font de même. Ils s'appliquent à rendre les jeunes gens tempérants et veillent à ce qu'ils ne fassent rien de mal. Puis, quand ils leur ont appris à jouer de la cithare, ils leur font étudier les œuvres d'autres grands poètes, les poètes lyriques, en leur faisant exécuter sur l'instrument. Il force ainsi les âmes des enfants à s'approprier les rythmes et les accords pour qu'ils se rendent plus doux, hein, donc la musique adoucit les mœurs, hein, et que devenus mieux rythmés et plus harmonieux, ils soient bien préparés pour la parole et pour l'action, car toute la vie de l'homme a besoin de rythme et d'harmonie. Après cela, on les envoie encore chez le maître de gymnastique afin qu'ils aient un corps plus sain à mettre au service d'un esprit vertueux et ne soient pas des trembleurs à la guerre par la faiblesse de leur constitution. Voilà ce qu'on fait pour l'éducation des enfants. Plus on le peut, plus on la soigne. Et on le peut d'autant plus qu'on est plus riche. Et ce sont les enfants des riches qui commencent le plus tôt à fréquenter l'école et qui la quittent le plus tard. Rien n'a changé. Donc vous voyez comment, effectivement, l'éducation morale, eh bien, elle vient en même temps que l'enseignement, que tous les autres enseignements. Hein. Et donc, ce que Protagoras veut dire par là, c'est qu'en fait, tout le monde est éducateur des enfants. Hein. Socrate lui avait fait l'objection, mais qui est ce spécialiste qui enseigne la vertu, l'art politique ? Et Protagoras dit, mais c'est tout le monde. Tout le monde éduque les enfants. Les parents, les pédagogues, les maîtres d'école, tout le monde s'y met. Et c'est ça, en fait, ça passe. D'ailleurs, il fait cette comparaison, c'est comme le langage. Comment un enfant apprend-il à parler ? Ben, c'est tout le monde qui lui apprend à parler en parlant autour de lui. Donc c'est par les exemples aussi, hein, par les modèles qu'il imite, etc. Donc voilà la réponse, hein, de Protagoras à la première difficulté que lui soumettait Socrate. Et à la deuxième difficulté qui était pourquoi alors des grands hommes brillants politiquement n'ont pas réussi à transmettre ça à leurs enfants, Protagoras justement saisit cette occasion pour faire cette fameuse jonction entre, bon, d'une part, tout le monde possède ça de manière innée, et d'autre part, il y a besoin d'une éducation. C'est comme ça qu'il fait la jonction en disant, en fait, tout le monde l'a reçu en lui, mais de la même manière que toutes les autres qualités naturelles, il y a des plus doués et des moins doués. Hein, il y en a qui, pour qui ça vient, d'ailleurs on voit, hein, les enfants plus obéissants, plus dociles, plus spontanément portés à l'altruisme, bon, et les autres moins. Eh bien, il y en a donc qui sont plus naturellement imprégnés déjà de justice et d'autres qui ont énormément de mal. Et donc, l'enseignement doit s'adapter, hein, donner plus aux uns qu'aux autres, donc compenser les variations de l'apport naturel. La nature apporte quelque chose, mais ça ne suffit pas. L'éducation donc doit développer ce que la nature a réparti de manière, disons, variable selon les individus. Et donc on voit bien qu'on peut le dire en termes aristotéliciens, hein, ce qui est inné, c'est comme un potentiel qu'il faut rendre effectif. Hein, il faut le rendre réalisé. Et ça, c'est le rôle de l'éducation et de l'enseignement. Et donc, par conséquent, puisque c'est réparti, le sens naturel de la justice est réparti différemment selon les individus, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il arrive que un fils d'homme brillant ne soit pas lui-même brillant, hein, qu'un fils d'homme juste ne soit pas lui-même juste. Mais, dit Protagoras, s'il a été bien éduqué, ce sera toujours mieux que s'il n'a pas été éduqué du tout. Donc, il faut leur donner l'éducation et l'enseignement. Et il y a aussi des gens plus doués que d'autres pour enseigner, par exemple les sophistes. Et voilà comment ils terminent. Et voilà comment ils terminent. Donc, ce qui est vraiment, vous voyez, très intéressant, c'est que on peut fonder sur la nature le respect de la loi, l'éducation morale, hein, puisque la morale est aussi justifiée comme ça. Et donc voilà un tout autre rapport entre la nature et la loi que celui qu'on a vu chez Antiphon, qui était un rapport d'antagonisme. Donc ici, on a un rapport d'antagonisme. Chez Thrasymaque et Glaucon, de la manière en tout cas dont le présente Platon, on a une sorte de parallélisme, c'est-à-dire que dans les deux cas, ce qu'on poursuit, c'est l'intérêt personnel, et c'est antagoniste avec la véritable morale. Dans le cas de Calliclès, là, on a de nouveau une opposition très forte, hein, entre le naturel et l'institué. Dans le cas de Gorgias, on a une sorte d'absence du naturel, mais dont on a compris à quel point c'était tout à fait cohérent avec sa philosophie, puisqu'il a une philosophie de « il n'y a que l'institué qui existe ». Et dans le cas de Protagoras, on a une fondation de l'institué sur le naturel. Donc en fait, vous avez qu'on a tous les types de relations, ils existent tous. Donc ça, c'est tout à fait extraordinaire de constater ça, hein, par cette variation, cette variété extraordinaire de conception dans un mouvement, enfin dans une mouvance, hein, qui s'appelle sophistique. Donc il n'y a pas du tout d'unité, d'homogénéité de la mouvance sophistique. Il ne faut pas les traiter tous ensemble. Ils sont vraiment très différents. Alors pour terminer, juste une dernière petite précision sur la suite du Protagoras. Bon, la suite du Protagoras, elle est un peu décevante parce que après ce brillant discours, enfin pour moi c'est un brillant discours, hein, de Protagoras, Socrate va de nouveau un petit peu le chicaner avec des questions un peu sophistiques. Mais il y a quelque chose quand même d'intéressant dans le dialogue de la fin, c'est la question des plaisirs. Parce que bon, ce qui est au centre de l'éducation morale, c'est la modération des plaisirs, hein, c'est la gestion des plaisirs. Et donc, ce que Socrate va faire développer par Protagoras en l'interrogeant, c'est aussi une conception de la modération des plaisirs de type calcul d'intérêt, hein, basé sur le calcul d'intérêt. C'est-à-dire qu'on gère ses plaisirs en sachant qu'il vaut parfois mieux renoncer à l'un pour avoir un plus grand après, hein, vaut mieux parfois accepter quelque chose de désagréable et de pénible pour avoir un plus grand plaisir après. Donc tout ça, c'est un calcul bien compris. Et alors, il fait dire à Protagoras qu'au fond, c'est un art de la mesure. C'est un art de la mesure. Hein. Il faut mesurer le plus grand, le plus petit. Hein, celui qui est le plus lointain nous paraît plus petit, mais en fait, peut-être justement qu'il faut le considérer comme plus grand. Hein. Erreur de perspective. Enfin, il y a tout ça. Hein. Donc, il y a des passages assez quand même encore intéressants. Alors, ce qu'on peut se demander, c'est évidemment, est-ce que ce terme de mesure, Platon l'a introduit par référence à la formule de Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose. Est-ce que Protagoras aurait étendu sa formule à la mesure des plaisirs, hein? On n'en sait rien. Franchement, on n'en sait rien, mais c'est ce que, effectivement, Platon laisse entendre, mais c'est peut-être une création à lui. Enfin, toujours est-il que, en Protagoras, on n'a pas une fondation de la morale telle que Platon la souhaite. C'est ça que je veux faire remarquer. C'est pas une fondation de la morale au sens de « il faut faire l'option morale pour elle-même, hein, par devoir, par... comment dire ?» par valeur transcendante, hein, de la morale, ou par une sorte d'impératif catégorique, si vous voulez, comme on le trouvera chez Kant. Hein, ce n'est pas dans ce sens-là non plus que Protagoras fonde la morale. C'est dans un sens encore assez pragmatique, qui, d'une part, correspond parfaitement à l'opinion populaire. Hein, Protagoras va tout à fait dans le sens, l'éducation qu'il décrit là, c'est l'éducation qui se fait, hein, c'est l'éducation populaire de la culture athénienne de l'époque. Donc il va tout à fait dans le même sens, et en même temps, il peut la justifier par ce calcul d'intérêt bien compris. Ce n'est pas du tout contradictoire, c'est tout à fait complémentaire. Hein, éventuellement, il y a un moment où on peut dire à l'enfant « Mais pourquoi je dois faire ceci et pas ça ?» Et on peut lui expliquer « Écoute, tu verras comme tu gagneras mieux plus tard, hein, grâce à ça. Cet effort te rapportera plus tard, etc. » Bon, ça fait tout à fait partie aussi de la morale populaire de dire ça. Donc voilà comment on a un Protagoras pragmatique et tout à fait conforme à la société de son époque. Voilà, je termine là-dessus. Merci. Tu veux intervenir?
Oui, oui. Je voudrais quand même souligner que dans l'exemple allégorique, hein, le mythe qu'introduit Protagoras, dans ce qui est naturel, c'est quand même la divinité qui l'amène, hein, qui l'octroie. Hein, là, il y a quelque chose qui m'est particulièrement cher, enfin, intellectuellement, c'est qu'il y a à la fois une vérité du mythe et en même temps un trou. C'est-à-dire que le naturel, s'il est octroyé par Dieu, par Jupiter, hein, on se demande qu'est-ce que c'est que ce naturel. Mmh. Voilà.
Oui, oui, alors ça c'est une remarque vraiment importante, c'est-à-dire c'est le statut... Le statut du mythe qui met en scène des dieux est assez compliqué et a probablement évolué d'une époque à l'autre. C'est-à-dire que, en ce qui concerne Protagoras, il est à peu près certain que Protagoras était athée, hein, qu'il croyait, ou au minimum agnostique, hein, comme on a vu quand il dit sur les dieux, je ne peux pas savoir s'ils existent ou non. Bon, alors quand on dit ça, c'est qu'on n'y croit pas, évidemment. Hein. S'il y croyait, il ne douterait pas qu'ils existent. Donc, je pense vraiment qu'il faut le comprendre comme une allégorie. Il ne dit vraiment pas, comme pourront dire les chrétiens ou les juifs, enfin, c'est Moïse a reçu la table des lois directement de Dieu, hein, ou l'Église est dépositaire de la loi de Dieu. C'est absolument pas une justification de ce type-là. C'est vraiment une allégorie, c'est-à-dire qu'on dit sous forme d'une légende ce qu'on estime être quelque chose de vraiment naturel. Donc, en fait, c'est une position... Pour moi, anthropologique, c'est une position sur l'humain. C'est une sorte de, voilà, quelle est ma conception de l'humain? Moi, je pense que dans l'humain, il y a cela qui est constitutif et propre à cette espèce. Parce que bien sûr, c'est propre à cette espèce. Aucune autre espèce d'animaux n'a ça, n'a reçu ça. Donc, c'est une manière d'exprimer sous forme de petite histoire quelque chose qui est un fait, qui est un fait constaté.
J'avais pas du tout, associé avec cette intervention de Jupiter. Je l'avais pas du tout associé à la croyance, pas du tout. Mm. Simplement, mon idée, c'était que on ne pouvait pas dire ce qu'était le naturel sans introduire du mythe, introduire cette forme mythique qui dit quelque chose de vrai, mais qui ne peut pas le dire autrement qu'à travers le mythe. Et c'est en ça que je disais qu'il y a un trou dans la signification.
Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire? Ou est-ce que, à l'heure actuelle, on essaye de le faire scientifiquement, hein, on essaye de trouver la nature scientifiquement, enfin, les dispositions de toutes sortes, enfin, y compris morales, etc., on essaye de le faire scientifiquement. Donc, on pense que c'est possible. Peut-être qu'on se trompe, mais... Ce que je pense qui est intéressant, c'est que, indépendamment du fait qu'on le dise mythiquement ou scientifiquement, c'est important que quand on que l'affirmation remonte des effets réalisés vers les effets potentiels, vers le potentiel. C'est-à-dire que on constate que on peut développer toute une série de qualités chez les humains par l'éducation, l'enseignement. Et donc, on remonte à la condition. Quelle est la condition nécessaire pour qu'il soit possible de développer ça chez eux? Et par opposition à d'autres espèces où il serait vain d'essayer d'inculquer ça, ça ne marcherait pas. Donc, on peut dire que il y a des espèces où il y a un potentiel parce qu'on peut obtenir quelque chose par l'enseignement. Alors que vous donneriez le même enseignement à une autre espèce, vous n'en tireriez rien du tout, c'est qu'il n'y a pas ce potentiel. Donc, je veux dire, le fait de poser l'existence d'un potentiel est quelque chose d'assez certain. On risque peu de se tromper, puisqu'en fait, c'est presque une tautologie. C'est de dire, bon, si cet élève a appris, c'est qu'il était capable d'apprendre. Bravo. on risque peu de se tromper en faisant comme ça. Et donc, je pense que toujours le fait de remonter, de réaliser au potentiel, Bah, c'est un moyen assez sûr. Et en plus, c'est un moyen intéressant, parce que comme disait Jacques Rancière, enfin, ça, c'est, j'aime bien parler de la thèse du maître ignorant de Jacques Rancière, il fait le pari de l'égalité des intelligences. Il dit, comment est-ce qu'on pourrait savoir si tous les nouveaux-nés ont la même intelligence au départ. Il dit c'est impossible à savoir puisque ce serait mesurer un potentiel. Or, mesurer un potentiel n'est pas possible, on peut mesurer que quand il est réalisé, quand il a effectivement des effets. Or, toute réalisation suppose évidemment un processus de développement. Donc en fait, ce qu'on juge, c'est toujours le processus de développement, d'apprentissage, et non pas le potentiel de départ. Et je trouve qu'il a totalement raison. Et donc, il dit, donc parions sur un potentiel identique, et donc, stimulons de toutes les manières pour que ça se développe.
Ouais. Donc, ça revient à distribuer divinement.
Oui, exactement. Oui, mais c'est un pari. Voilà, on ne peut pas le prouver. Si tu veux. Voilà, on ne peut pas le prouver.
Concernant le fait que la. Parce que tu disais que les scientifiques posent la question de l'origine naturelle ou non de la morale, par exemple, bon, ça c'est quelque chose qui, depuis 40 ans, fait des débats enragés en biologie. Enfin, c'est le domaine le plus conflictuel de toute la biologie, en fait, c'est le débat sur la sociobiologie. Donc, c'est un courant qui est né dans les années 70, où il y a des gens qui ont dit qu'en fait, tous les comportements sociaux dans les sociétés animales, y compris les sociétés humaines, étaient justifiés par le fait que la sélection s'appliquait non pas sur l'individu lui-même, mais sur autre chose. Et alors, il y a eu plein de théories différentes, soit ça s'applique au niveau du groupe, soit ça s'applique sur l'individu, mais indirectement aussi sur sa famille. Et donc, si on protège ceux de sa famille, ou ceux qui sont proches, ou ceux avec lesquels on partage des gènes, on va indirectement favoriser la transmission de nos propres gènes. Et alors, il y a tous des calculs, des modèles théoriques qui sont basés sur réellement une économie où l'unité monétaire de cette économie, c'est la capacité de chaque individu à transmettre soit directement, soit via ses neveux, ses nièces, ses cousins, etc., ses propres gènes. Mais c'est un débat où il y a très peu de fondements scientifiques. Et donc, par exemple, des gens comme Stephen Jay Gould ont passé pas mal de temps à montrer que... Enfin, lui, il a écrit un article qui disait « La sociobiologie, l'art de raconter des histoires ». Il a dit... enfin, des contes de fées, d'ailleurs. Il dit « Fairy Tales ». Et c'est quelque chose qui a eu maintenant Stephen Jay Gould, il est mort. Et ça a été repris par tout un courant qui s'appelle la psychologie évolutive. Donc, ils écrivent des bouquins entiers où ils essayent d'expliquer toutes les règles sociales humaines par la nature, mais par ce petit bout de la lorgnette de la nature qui est la théorie de la sélection reprise au niveau des sociétés humaines. Mais ce qu'on leur reproche généralement, c'est qu'il n'y a aucun fondement scientifique parce que les hypothèses qu'ils émettent ne sont pas testables. C'est simplement des scénarios qui sont vraisemblables, mais où on peut ni les appuyer, ni les infirmer. Et aussi, comme disait Annick, c'est qu'ils vont les toujours trouver dans la nature. L'exemple qui satisfait une théorie, et puis un autre qui a une autre théorie va trouver un autre animal sur lequel il va baser une analogie pour dire que la théorie inverse est tout aussi valide. Mais donc, au sein de la communauté biologique, en tout cas, ça fait vraiment débat, et c'est vraiment un débat où les gens se tapent dessus. Notamment, il y a encore un bouquin qui est paru il y a quelques années qui s'appelle. Il y a eu un bouquin qui a été publié par Patrick Burke qui s'appelle Misère de la sociobiologie. Il y a un autre bouquin qui s'appelle « Hélas, pauvre Darwin » qui démontre tout à fait la psychologie évolutive, etc. Et puis il y a un autre bouquin qui a été publié par Alcock quand Stephen Jay Gould est mort, qui s'appelle « Le triomphe de la sociobiologie ». C'est pas Patrick Thor, la misère de la sociobiologie, je crois. Les gens se tirent dessus à vous, les rouges.
Oui. Si dans sociobiologie, on enlève biologie, on garde que sociologie, la thèse est défendable. C'est la tienne. Hein.
Mais c'est pas la mienne.
La complexité de la chose, c'est d'associer sociologie à biologie. Donc, d'associer un a priori à un développement, en quelque sorte. Hein. Mais si on ne garde que sociologie, on peut démontrer tout ça a posteriori. Donc c'est pas impossible. Hein. C'est l'association des deux mots, à mon avis, qui pose problème, effectivement. Mais si on en enlève un, on garde que sociologie, c'est ce que tu... C'est, ça devient défendable et possible. que tu viens de dire, dans la biologie, dans la, c'est-à-dire le côté idée ou...
Oui, en fait, j'ai peut-être pas, enfin, je peux pas rentrer dans tous les détails, mais un des gros problèmes de toute cette théorie-là, c'est qu'elle est basée sur le fait que la morale soit portée par les gènes, en fait, parce que c'est vraiment une extension de la sélection génétique. Donc que nos comportements sont dirigés par nos gènes. Donc c'est surtout là-dessus qu'il y a un point d'achoppement.
Mais si on remplace le gène par environnement,
culture, ça c'est
ah oui.
Le gros problème, c'est d'associer les deux mots. Les deux mots, c'est vrai que c'est apparemment. Ah oui, non, mais bien sûr que c'est intéressant.
C'est intéressant de les associer.
C'est tentant, je dirais, c'est tentant de les associer.
Non, mais je crois que c'est les Américains, il y a une cinquantaine d'années, qui avaient pris des bébés comme ça à la naissance, abandonnés. Ils avaient tous mis dans un endroit jusqu'à ce qu'ils aient 12 ans. Et ils avaient testé justement quels étaient les. Mais apparemment, les résultats, c'était que presque tous avaient eu autant de possibilités, sauf différentes. Les uns étaient peintres, les autres étaient savetiers, enfin, des trucs comme ça. Je me rappelle de ça, on avait étudié ça. Et j'avais trouvé ça très intéressant. Il s'appelle Templeton, non, le gars, je crois. Je ne me rappelle plus, un américain. Et ils avaient trouvé justement que les enfants, ils n'avaient pas tellement de différence au niveau de la morale. Aucun n'était vraiment gentil, ils étaient plutôt méchants, tous. Pour les c'était marrant, hein. Ça m'avait un peu désespéré à l'époque. Mais ils étaient à peu près tous au niveau intellect, par exemple. Ils étaient à peu près tous au même niveau. Il n'y avait pas des différences énormes, comme on peut voir maintenant, quelqu'un qui est très doué à l'école ou pas, quoi. Par contre, ils étaient presque toujours méchants. Si, ils n'intervenaient pas en morale. C'est marrant, hein. Je ne me rappelle plus, c'est pas, je ne vais plus ce bout, ce truc. En tout cas, c'est des Américains, ça.
Ils étaient élevés sans père.
Non, mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment très, très... Il me semble que l'attitude prudente, c'est de dire que on ne peut pas séparer totalement ce qui est des dispositions individuelles et puis ce qui vient de la culture. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est plus intéressant d'avoir une association, hein, où on dit une association entre les deux, où on ne cherche pas strictement à faire à mettre la frontière quelque part. Et je trouve particulièrement intéressant la notion de le couple potentiel et réalisation, hein, réalisation de potentiel, en sachant que il y a à peu près tous les potentiels dans tous les humains, quoi. Dans tous les individus, il y a à peu près tous les potentiels, hein, de manière variable, et que alors ça dépendra énormément, lequel va se révéler dépendra énormément de l'environnement. Donc ça me paraît être une thèse à la fois prudente et observable.
Dans la mise en scène que fait Platon des différents intervenants, est-ce que l'on sait quel est le degré de réalité des différents sophistes, etc., ou bien si c'est Platon qui met un processus de démonstration derrière.
Et oui, ce sont des choses qu'on étudie, qu'on essaie de déterminer, et c'est sûr qu'il y en a pour certains, ils sont bien identifiés, alors en ce qui concerne, presque tous d'ailleurs, hein, Gorgias, Protagoras, Antiphon, on a retrouvé son texte directement, donc là il n'est pas mis en scène. Glaucon, c'est pas un sophiste, c'est le frère de Platon. Mais, alors, il y a que Calliclès, et je crois que Trasimaque en a des traces par ailleurs aussi. Mais il y a que Calliclès dont on n'est pas sûr parce qu'il n'est mentionné que là. Mais tous les autres, ce sont des gens bien connus par des tas d'autres sources. Enfin, surtout ces deux-ci qui sont très célèbres, ils sont bien connus par des tas de sources. Et en plus, il y a quand même d'autres auteurs qui font allusion aussi à ce genre de rencontres, à ce genre de réunions où les gens viennent voir l'étranger qui est de passage et qui va donner quelques leçons brillantes et avec lequel tout le monde a envie de venir discuter. Donc on a des attestations de ce genre de réunion. Ça s'est vraiment passé. Alors évidemment, on ne s'en doute pas exactement comme il le dit. Quel rôle Socrate a pu jouer par rapport à ces sophistes, on n'en est pas sûr non plus. Mais là aussi, alors notre deuxième source, c'est Xénophon. Hein, en importance, je veux dire, en volume de récits rapportés, c'est Xénophon. Et il met en scène aussi Socrate qui parle à un sophiste, notamment Hippias, mais aussi Prodicos. Enfin, il y a différents sophistes qui sont présents d'ailleurs aussi, hein, dans le dialogue, dans le Gorgias. Il y a aussi d'autres sophistes qui assistent à la scène. Donc, on sait que Socrate leur a parlé et les interrogeait de cette manière-là. Ça, c'est sûr aussi. Donc, que la scène se soit passée exactement comme ça, bon, évidemment, il y a toute l'intervention créatrice de Platon qui a pris le relais, mais que ce genre de réunion ait eu lieu, c'est sûr, avec ces sophistes-là, oui, oui. Et que ces sophistes étaient très connus à Athènes, très appréciés. À Athènes, c'est connu aussi, c'est confirmé par plusieurs sources. Alors, le reproche qu'on leur fait le plus souvent, c'est le reproche d'être payés, hein, de demander de gros salaires, de demander de gros salaires pour leur... pour leur leçon, mais je dirais que ça revient tout le temps sous la plume de Platon, mais quand on voit ce que par ailleurs il le reconnaît d'intelligence, parce que moi je trouve qu'il les valorise quand même dans leur discours, il montre que c'est un discours intelligent, moi je trouve. Donc je trouve que par rapport à ça, le reproche de se faire payer reste secondaire, quoi. C'est pas aussi important que... Et ça veut dire qu'il y a un vrai apport philosophique de la part des sophistes aussi, et que Platon le reconnaît. Donc je trouve que ça vaut la peine quand même de prendre en compte cette dimension de témoignage, quoi, de vrai témoignage.
Et puis les gens pensaient que ça valait le coup de payer, justement, parce que parce que c'était enrichissant pour eux.
Alors il faut dire aussi qu'on est à la charnière, et ça, les sophistes illustrent bien ça, on est à la charnière entre un enseignement traditionnel et un enseignement nouveau. Les sophistes apportent un enseignement nouveau. Non seulement ils apportent des matières nouvelles, parce que, alors ça c'est pas seulement grâce à eux, c'est parce qu'on a, des progrès scientifiques, hein, comme on l'a vu avec les autres présocratiques, il y a des progrès dans la pensée scientifique, ou des progrès dans les techniques aussi. Et donc les sophistes enseignaient un peu tout ça. Et surtout, on se trouve à un moment où on n'a jamais eu autant besoin de la parole persuasive. Et donc ça, c'est vraiment dû à l'évolution démocratique. Et donc eux, ils surgissent évidemment de manière extrêmement opportune, hein, juste au moment où on a besoin de ce genre de choses. Et c'est pour ça aussi que tout le monde est prêt à les payer, parce qu'il n'y a encore personne qui est comme eux, capable d'enseigner ça. Ce n'est pas encore des disciplines pour lesquelles on a toute une génération de gens formés, quoi. Ils ne sont pas nombreux à être très bon en rhétorique, à utiliser le langage de manière approfondie comme ils le font. Et donc, voilà, je crois que c'est aussi pour ça qu'on est prêt à les payer. Alors que, bon, traditionnellement, les maîtres d'école, c'était souvent des esclaves. Enfin, c'était pas... Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas valorisés, hein, c'est pas du tout. Hein, c'était très valorisé, mais il n'y avait pas besoin de les payer. Et alors il y a aussi évidemment le fait que les philosophes de cette époque mettent un point d'honneur à ne pas se faire payer. Donc alors il y en a qui sont aisés comme Platon, mais il y en a qui sont pauvres comme Socrate. Hein. Socrate il va pieds nus, les autres se moquent de lui en disant t'as un seul manteau, le même été comme hiver, tu dors sur un grabat, tu manges de la nourriture infâme. Et Socrate dit oui je suis pauvre mais... Je suis philosophe. c'est plus important pour moi de mener mon activité, et il est hors de question que je demande qu'on me paye pour cette activité.
Si je peux me permettre, c'est trivial, mais il buvait bien.
Pardon ?
C'est très trivial, mais il buvait beaucoup.
Il était capable de boire quand on l'invitait à un banquet. Et oui. Oui, oui, parce que... Non, c'est vrai qu'il était apprécié, invité, et que... Il survivait à tous les autres convives dans les banquets.
Dans le banquet, il semble qu'ils aient l'habitude, ces Grecs, de boire comme des trous.
Oui, c'était, ça se faisait pas tous les jours, hein. C'était comme...
C'est bien, il arrive, il y a des gens qui sont bourrés.
Oui, mais lui, c'est un mauvais garçon.
Oui, tel est un homme.
Moi, ce que je trouve remarquable, c'est justement que les sophistes, ils nous permettent de relever un peu le langage et l'articulation du langage. Et moi, avec les présocratiques, dans les philosophes premiers, je trouve remarquable les sophistes dans ce sens que... avec donc, la sociologie et notamment les neurosciences, est-ce que en fin de compte la philosophie ou le questionnement philosophique ne s'articule pas justement sur le langage, sur la physiologie, on va dire, de la langue. Et là, les philologistes, les sophistes, je trouve qu'ils nous apportent quelque chose de plus, pas dans le contenu, pas dans la profondeur du questionnement, mais dans la forme, dans l'articulation, dans le... Bon, les philosophes aussi, on a parlé de poésie la dernière fois, et la façon un peu fleurie de, d'amener un peu à la rue. Et je trouve que peut-être, est-ce que... Bon, ça c'est... Je me pose la question, je sais pas, mais bon, je ne suis pas linguiste non plus, même si la lecture de choses qui m'aident un peu, mais est-ce qu'en fin de compte, le questionnement ne vient pas par la physiologie du langage? Est-ce que la pensée n'est pas influencée? Il y a peut-être des retours, mais est-ce que c'est pas, en fin de compte, de la, le but, c'est peut-être pas la profondeur du questionnement, mais il s'est dit aussi qu'à cette époque-là, il y avait aussi une transition dans l'écriture. Et ensuite, c'est l'apport que les sophistes ont apporté, notamment dans l'histoire, l'éducation, l'université, la transmission du savoir, etc. Et donc voilà, je me pose la question, je me dis, est-ce que par un processus d'inversement des perspectives, est-ce que c'est pas plutôt le langage qui promeut, on va dire, le questionnement, la réflexion?
Alors là, c'est tout à fait exact et c'est vraiment très important que... Il y a beaucoup de questions philosophiques qui sont nées de problèmes de langage. C'est-à-dire, c'est pour ça que les sophistes ont joué un rôle énorme là-dedans, parce qu'il y a eu toute une génération de sophistes, il faut bien le dire, qui, c'est pas ce dont on vient de parler, mais qui ont utilisé les ambiguïtés du langage pour proposer des théories pseudo-scientifiques, enfin, des théories philosophiques complètement invalides, parce que fondées justement sur des... ou bien des doubles sens des mots, ou bien des raisonnements non valides, etc. Et donc, à partir de là, il y a eu une énorme réaction de clarification du langage à cause du fait qu'on pouvait trop l'utiliser pour tromper, en fait. Et donc, quand on s'est rendu compte du potentiel trompeur du langage, on a voulu le comprendre mieux et donc le rendre plus clair, rendre officielles toutes les nuances, enfin se mettre d'accord sur les nuances qu'il existait dans le langage, sur ce qui était la démonstration logique, etc. Et la grammaire est née en même temps aussi. Les sophistes, c'était aussi les premiers grammairiens. Enfin, par exemple, on sait que Protagoras, il s'interrogeait sur le genre des mots. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il existe des mots masculins, féminins et neutres, en grec, il y avait aussi un neutre, et que ça n'a aucun rapport avec une naturalité de la chose, quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi on dit un banc et une table, ça n'a aucune justification. Donc, c'est arbitraire, hein, c'est arbitraire de certains faits grammaticaux, ça aussi fait s'interroger. Alors, on sait aussi que le verbe « être », dans les langues indo-européennes, a un champ sémantique tellement large que ça a aussi créé des gros problèmes, et peut-être que ça a motivé, au moins en partie, l'interrogation ontologique, quoi, sur qu'est-ce que ça veut dire être, c'est quoi l'être, qu'est-ce qui est. Parce que c'est vrai qu'on peut dire, premièrement, on peut utiliser le mot être simplement comme liaison entre un sujet et un attribut. Et c'est vrai que très vite, on a constaté qu'il ne suffit pas de dire Homère est un poète pour pouvoir dire aussi bien Homère est. Homère est un poète, mais il n'est plus. Donc, en fait, très très tôt, on a constaté qu'on pouvait jouer comme ça avec les différents sens de être. Et donc, il a fallu faire de l'ordre, et ça a suscité un gros effort, justement, pour comprendre philosophiquement, cette fois, donc, quelle était la différence entre les différents sens de l'être. Donc, c'est tout à fait vrai qu'il y a vraiment des difficultés du langage dont on se rend compte à un certain moment et qui stimulent alors la pensée. Et donc, on peut supposer aussi qu'une civilisation où il n'y aurait pas ces ambiguïtés serait moins encline à s'interroger parce que la clarté serait plus spontanée.
C'est pour ça que, disons, on peut parler pas d'un langage, mais des langages, c'est-à-dire chaque langue à sa propre concept développé. Et je pense que Barbara Cassin développe ce concept qui est intéressant, c'est-à-dire que suivant les civilisations, on n'a pas la même ontologie, l'être, etc. C'est sûr que chez les Chinois, c'est pas la même chose.
C'est pas pareil, oui. Ouais. Et vous avez raison de citer Barbara Cassin, parce que c'est vrai que c'est une spécialiste des sophistes, et comme par hasard, c'est aussi elle qui a lancé cette collection des intraduisibles. Les intraduisibles, la notion d'intraduisible est vraiment importante. C'est vrai que il y a des choses qui... Pardon ?
Ça s'appelle son dictionnaire européen,
voilà, oui. Qui, bon, c'est un projet collectif, mais enfin, elle en fait partie. Et de fait, enfin, ça prouve bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas penser dans une certaine langue. On le pense autrement, hein, on le compense, si on veut. On le compense autrement, mais on ne peut pas le penser de la même manière dans une langue ou dans une autre langue, parce que ça ne s'exprime pas, ça n'existe pas tel quel. Donc, c'est vrai qu'il y a... Il y a des différences qui sont induites par la langue, c'est clair.
Ouais. Ouais, par exemple, africain.
Alors bon, nous, évidemment, on connaît bien le bloc indo-européen, et c'est vrai qu'on se rend compte, hein, qu'entre une formulation grecque, allemande et même sanscrite, la grammaire, la sémantique sont du même type, il n'y a pas beaucoup de variations. Donc là, ça, on arrive toujours à traduire. Ou à expliquer, en fait, hein, ou à expliquer comment on traduit, etc. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on change complètement de famille linguistique, alors là, on comprend qu'on peut développer un autre type de pensée, du coup.
Tout est dans l'étymologie, en fait.
Alors, est-ce que tout y est? La question étymologique, c'est aussi une question qui a été débattue à cette époque. À partir de la fin du 5e siècle, il y a eu ce problème de est-ce que l'étymologie révèle la naturalité du langage ? C'est-à-dire, est-ce que par l'étymologie, on peut trouver une langue qui soit originelle, c'est-à-dire qui soit directement dictée par la nature ? Directement, la langue originelle, quoi, la première langue des hommes, celle qui correspondrait exactement à la nature, celle qui serait imposée par la nature des choses. Donc, est-ce qu'on peut retrouver ça? Et bon, c'est par exemple, Platon discute ça dans le Cratyle, par exemple. Hein, c'est un dialogue là-dessus. Alors, il y a peu de gens qui pensaient ça. Hein. La plupart pensaient que la langue est purement conventionnelle et que donc son étymologie peut éventuellement révéler un stade antérieur, un stade historique antérieur de la langue. Parce qu'on savait que les mots changeaient, disons, évoluaient lentement, hein, changeaient lentement de sens. Mais la plupart ne pensaient pas que l'étymologie révèle la vraie nature des choses, quoi, qu'il y ait eu un stade où le langage était naturel. Non, tout langage était conventionnel, en général, ils pensent. Mais c'est vrai que ça aussi, c'était discuté, enfin, ça faisait partie des mêmes interrogations.
La position de Protagoras, là, entre la nature et la langue, ça fait penser le potentiel, là, l'histoire du potentiel, ça fait penser à la position de Chomsky entre performance et compétence.
Oui, oui. Et de fait, Chomsky a une tendance assez, une conception assez universaliste de la capacité humaine à la logique du langage. Quoi, hein. La logique syntaxique, pour lui, est universelle. Quoi. Donc, quel que soit, ça vient nuancer l'idée des différences entre les langues. Je pense qu'il faut tenir les deux, hein, un équilibre entre les deux. Quoi. C'est sûr qu'il y a un fond de capacité à articuler des significations, hein, articuler des significations entre elles, ça le langage, il y a un fond de capacité qui est propre à l'être humain. Alors, ben, peut-être qu'il y a des espèces inconnues qui le font aussi, mais ben, d'autres espèces connues, non. Donc, et ça c'est universel et ça se retrouve, et donc comme quand Chomsky essaye de trouver une grammaire universelle, parce qu'il est sûr qu'il y a quelque chose qui est physiologique, quoi. Enfin, c'est un physiologique du cerveau, bien sûr. Hein, pas de...
Donc c'est avec les sophistes qu'elle met la conjugaison, par exemple, le temps.
C'est-à-dire, elle est...
Vous avez donné l'exemple de Homer et...
Oui.
Homer est philosophe et que si Homer n'est plus...
Oui.
Donc ça m'a interpellée, je me suis dit, comment est né le... Voilà, est-ce que c'est avec les sophistes qu'elle est née ou ça a été déjà?
Non, c'était déjà, mais avec eux est née la question sur comment est-ce que ça se justifie qu'on utilise le même mot pour dire des choses différentes. Et c'est plutôt la question qui est née avec eux. Mais on n'arrive jamais à retrouver l'origine d'une langue. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a des traces d'une langue, elle existe depuis un certain temps. Et donc on constate toujours un état de la langue bien après que cet état soit apparu. C'est impossible de remonter vraiment au moment où ça a surgi. À chaque fois qu'on le constate, il a déjà surgi depuis un certain temps. Et donc c'est toujours après coup qu'on se pose la question sur la langue. Comment ça se fait qu'elle s'est formée comme ça? Comment ça se fait qu'on a tel et tel articulation ou telle signification des mots. Et à ce moment-là, on se dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui le justifie? Par exemple, on peut se dire, c'est complètement arbitraire que le même mot signifie des choses différentes. On pourrait même décider de supprimer cette ambiguïté. C'est-à-dire, à partir de maintenant, on met un mot spécifique pour chaque chose. On pourrait le décider. Ou alors on dit, non, mais il y a une raison, parce qu'il y a quand même une origine commune, il y a quand même une affinité. Et donc on cherche à légitimer le fait que ce soit le même mot. On dit, non, il y a quand même quelque chose de commun entre ces différentes significations. Donc voilà, c'est que ça suscite des tas de théories. Mais c'est toujours après coup. Toujours ça existait déjà. Ouais.
Par exemple, dans l'espagnol, il y a deux mots pour dire être, on dit ser ou estar. Et qui représente le statut tout à fait différent de la relation entre la chose qui est et ce qu'elle est.
Tout à fait. Et ça, c'est une recomplexification. Hein. C'est une recomplexification puisqu'ils ont utilisé deux mots d'origine latine différente et ils ont recomplexifié ce qui n'était pas le cas en latin. Ouais. Eh bien, merci beaucoup pour cette très bonne remarque.